Bonjour, c'est Vassili. Alors, je vous propose de continuer à vous replonger dans l'histoire par les yeux d'adultes qui étaient enfants durant la Seconde Guerre mondiale. Je suis toujours avec André L et nous continuons l'interview que nous n'avions pas finie la dernière fois. Voici la suite de son témoignage.
Quand on se mettait à table le soir, il n'y avait pas grand-chose dans l'assiette. Donc là, ça c'était la première chose. Et puis, il faut dire qu'après la guerre de 14, 14-18 et même la guerre du siècle d'avant, l'allemand, c'était vulgaire, mais on l'appelait le Bosch. Et on avait, ouais, il y avait une espèce de... On le détestait, quoi.
Ouais.
On détestait. Bon, on va vivre sous la dominance d'Hitler, mais c'est les Boches qui vont gouverner. Et ça, bon, tout gosse, même tout gosse. Bon, puis je vous dis, je crois que le plus important, c'est qu'on n'avait pas grand-chose à manger. Moi, j'ai mangé des topinambours. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, des topinambours. On mangeait beaucoup de pommes de terre, on mangeait. Et c'est vrai que dans l'assiette, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose pour compter. Puis la calèche qui arrivait, là, avait les chevaux, et puis les officiers allemands dedans, ils accrochaient les chevaux là sur le petit kiosque du village, puis ils allaient boire un coup, ils sortaient, ils rigolaient, ils se marraient. Bon, ça, c'est. On n'est pas très bien quand on voit ça. Hein. En plus, il y avait. Cette forme d'ostracisme, quoi, on ne les aimait pas, quoi.
Quand il y a eu la période de la drôle de guerre, vous voyez, c'était instable, on ne savait pas ce qui allait se passer.
Oui.
Et quand la bataille de France a été engagée, c'est-à-dire quand les Allemands ont vraiment attaqué, alors c'était une catastrophe du côté de la population. Le moral, par exemple, vous ressentiez autour des habitants du village et autre chose, vous
Oui.
voyez quoi dans l'esprit des gens de l'époque?
Mais à l'époque, les gens, bon, on était partis en disant la guerre va durer un an ou 2 ans, quoi. Ça va être comme en 14-18, on va leur foutre une trempe terrible. La ligne Maginot nous protège à l'est de la France, il n'y a pas de problème, manque de peau. Ils sont arrivés par la Belgique, par l'autre côté, ils ont fait une poussée terrible avec une aviation super performante. Et nous, bon, on a été d'abord en zone libre, et puisque le gouvernement était à Vichy, puis après, on a été en zone occupée. Et c'est vrai que, comme disait un de mes voisins, qui avait été prisonnier 5 ans en Allemagne, il dit, purée, ça a été une véritable débâcle, et on avait les Allemands en trousse, et j'aurais eu des espadrilles, peut-être ils m'auraient pas rattrapé.
D'un point de vue d'enfant, vous, les informations, vous venez comment de ce désastre de mai juin 40?
Oh, les informations en tant qu'enfant, il n'y en avait pas beaucoup. Moi, c'était surtout grâce à mon père. L'autre jour, on parlait de Radio Londres, mais on avait peur, on n'écoutait pas. On n'écoute pas la radio. Donc, c'était juste par des informations comme ça. Il y avait des journaux comme La Dépêche, comme Sud-Ouest, mais ils étaient censurés, donc on le vivait au jour le jour, mais on ne savait pas trop ce qui se passait.
Et alors, une fois que cette bataille fut finie, c'est-à-dire que même l'appel du maréchal Pétain à une trêve, l'arrêt de la bataille. Alors, ça, dans le Tarn en particulier, ils étaient pour Pétain, enfin, ils étaient d'accord avec le fait qu'on arrête la guerre et qu'on ait quand même une zone libre, entre autres, et qu'ils commencent des négociations comme ça, où il y a eu vraiment une révolte, tout le monde était indigné.
Bon, je vais pas être gentil, mais à 90%, les Français étaient pour Pétain, hein, faut le dire. Parce que Pétain nous avait sauvé un petit peu en 14-18, hein, c'est lui, il était sorti très victorieux de cette guerre, donc on a dit, à 90%, oui, il n'y a pas de problème, on lui fait confiance, mais on a vite déchanté, quoi. Et je vous dis, à l'école, en 42, 43, on chantait Maréchal, nous voilà, hein. On nous faisait chanter ça dans les écoles primaires, donc déjà il y avait une propagande assez importante.
Et au début, même début du conflit, ça commençait déjà à arriver.
Ah oui. Et alors après, quand ça a été zone occupée, alors là, c'est là, je pense, quand on a été en zone occupée, c'est-à-dire quand les Allemands ont déferlé chez nous, c'est là que, je pense, la résistance a commencé à se mettre en place.
Vous disiez même à l'école, il y avait une propagande de Vichy, comme ça, quand il y a la
Oui.
poignée de main de Montoire en 40. Ça aussi, ça a fait effet. Avec Hitler, la poignée de main de
Oui,
Montoire,
ouais, ouais, ouais.
le début d'une politique de collaboration.
Oui, cette politique de collaboration, mais bon, on n'était pas tellement informés. Moi, j'étais tout gosse, mais même mon père n'était pas. Bon, au départ, il faisait un peu confiance à Pétain, mais après, bon, quand il a vu la collaboration, quand on a appris aussi. Et c'est là, je pense, qu'il y a eu un retournement terrible, qu'il recherchait les Juifs, les rafles du Vel'd'Hiv et les fameux STO. C'est-à-dire, moi, ma famille était concernée, mon beau-frère et mon frère, ils devaient partir en Allemagne au travail obligatoire. Et ça, je pense que ça, c'est là que ça a commencé à basculer un petit peu. Et alors après, évidemment, quand la résistance a été mise en place, quand on est venu nous dire, bon, il y a des groupes qui se forment à tel endroit, bon, ben là, on a... Mais soyons honnêtes. Quand Pétain a dit « j'ai signé l'armistice, je fais don de mon corps à la France », tout ça, 90% des Français ont suivi. Moi, j'étais trop jeune pour prendre position, mais 90% ont suivi.